DGG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. On attaque la troisième heure DGG. Si vous avez raté les grandes gueules, n'oubliez pas les podcasts, la session de rattrapage sur l'appli RMC et sur notre site internet rmc.fr. Les podcasts, c'est l'émission et puis les petits à côté de l'émission, les souvenirs DGG à l'école et de leur première voiture, et vous apprendre ainsi comment Didier Giraud avec sa deux chevaux a fait un joli tonneau. Heureusement, il s'en est sorti et il était avec nous dans les grandes gueules. Didier Giraud, agriculteur à Belleboyer, éducateur qui faisait le kéké, lui, dans sa voiture. Il vous dira laquelle dans les podcasts. Et Barbara Lefebvre qui a eu sa première voiture, passé 40 à 49 ans.
Oui, 48.
Voilà. Et qui fait le kéké depuis. Hein.
Ah oui, dans ma Zoé.
Barbara Lefebvre.
Le kéké dans une Zoé, je peux te dire.
La prof d'histoire géo. Allez, on va reparler politique maintenant parce qu'on va accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Face au GG, notre confrère Michaël Moreau, avec ce livre qui s'appelle « Sa Majesté nomme, enquête sur un pouvoir présidentiel exorbitant ». C'est aux éditions Robert Laffont. Bonjour Michaël.
Bonjour.
On le sait peu, mais l'un des premiers pouvoirs de notre président de la République, c'est celui de nommer des milliers de personnalités, sont nommées chaque année dans toutes les sphères de la vie publique, culture, diplomatie, police, armée, entreprise publique, sans véritable critère imposé. C'est un pouvoir énorme. D'ailleurs, vous dites nommer, c'est régner. Dernier exemple en date, ça tombe bien, vous venez aujourd'hui, Amélie de Montchalin, présidente de la Cour des comptes, qui est nommée. Alors, elle est sans doute très compétente, mais elle est ministre des comptes publics et dans quelques semaines, elle va devoir juger son propre budget. Bien sûr, en toute indépendance.
C'est une illustration parfaite de Sa Majesté nomme, puisque du coup, un poste très important nommé, décidé par le président de la République, c'est un poste inamovible en plus. Donc elle a 40 ans. C'est un poste aussi sans durée de mandat, puisqu'on part à la.
On peut y rester jusqu'à 68 ans.
Jusqu'à 68 ans,
donc théoriquement. C'est 28 ans.
Jusqu'à 2053. Elle est nommée demain pour jusqu'à 2053. Ça rappelle aussi la nomination, il y a un an de Richard Ferrand, un autre proche d'Emmanuel Macron à la tête du Conseil constitutionnel. C'est pas le seul président qui a installé des proches.
C'est depuis quand qu'il y a eu cette dérive ?
Alors, ça a toujours existé, ça a augmenté tout au long de la Ve République. C'est-à-dire que déjà, le général de Gaulle, il impose dans les différents textes de la Constitution, il y a aussi une ordonnance qui dit que que c'est lui qui a la main plutôt que le gouvernement. Ça a explosé aussi sous François Mitterrand. Été 1985, il fait passer un décret un peu en douce pour augmenter considérablement le nombre de postes qui relèvent du président de la République plutôt que du gouvernement. La date n'est pas au hasard, l'été 85, puisque c'est quelques mois seulement avant des législatives qu'il s'avait déjà perdu. Et dans l'entre-deux-tours le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle de 95, Jacques Chirac met ce sujet sur la table, puisqu'il dit qu'il va réduire son pouvoir de nomination. Il parle d'une dérive monarchique, c'est ses mots dans ce débat de l'entre-deux-tours, et au final il n'en fera pas grand-chose.
Combien il nomme de personnes, le président? Alors, est-ce qu'on le sait précisément?
Alors, on ne le sait pas précisément, c'est des milliers de personnes. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, et puis c'est un nombre qui est croissant, aujourd'hui il se trouve que ni l'Élysée ni Matignon ne savent vraiment finalement comptabiliser tellement il y en a. Beaucoup de sources convergent autour de 5 000. Il y a même une source qui m'a fait une évaluation jusqu'à 10 000. Donc c'est vraiment énormément de gens qui sont nommés. Alors ça dépend des postes. Il y a beaucoup de postes en fait.
Même.
Il y a beaucoup de postes en fait où il n'y a pas de critères imposés. Il y en a où il y en a un petit peu. Par exemple, c'est le président de la République qui choisit le président ou la présidente du musée du Louvre. Il y a un critère, c'est qu'il faut être conservateur. Mais dans la plupart même le président de la République nomme beaucoup de patrons de musées et le plus souvent il y en a pas.
Mais pardon, vous dites Emmanuel Macron. Alors les autres l'ont fait, mais Emmanuel Macron, lui, il s'implique vraiment dans les nominations. Il reçoit les candidats. Il dirige lui-même les castings. Il adore ça.
Exactement. C'est sans doute le président de la République. C'est le plus impliqué dans le pouvoir de nomination, même si en fait tous les présidents y tiennent beaucoup à ce pouvoir. Donc lui, il reçoit beaucoup de postes des candidats en tête à tête. Il fait les castings. Par exemple, je parlais du Louvre tout à l'heure. La présidente du Louvre, c'est lui qui a reçu les candidats et qui a choisi Laurence Descartes.
Et c'est lui qui décide de la maintenir.
Et c'est lui
malgré
qui décide de la
pression
maintenir.
Et les appels à démission.
C'est lui qui aura le choix de aussi son mandat actuel termine en septembre, de savoir si elle sera reconduite ou pas en septembre et si elle sera.
C'est
même
vraiment mais pardon, c'est vraiment le fait du prince, c'est-à-dire qu'il nomme ses copains, on recase les copains ou quand même il essaie de trouver la meilleure personne à chaque poste.
Alors, dans l'entourage évidemment d'Emmanuel Macron, on dit qu'il cherche toujours la bonne personne parce que en fait, nommer beaucoup de gens, moi je raconte du coup l'étendue de ce pouvoir, je parle d'un pouvoir exorbitant. Après nommer beaucoup de gens, c'est pas forcément nommer des gens qui sont pas compétents. Même s'il y a tout au long de la 5e eu des exemples assez précis, j'en donne plusieurs, de présidents de la République qui, sur des postes, ont préféré nommer parfois sur des critères de proximité plutôt que sur des critères de compétences. Bah, par exemple, alors c'est souvent des proches, des postes qui sont très sensibles. Je donne un exemple, par exemple, sur le renseignement. Début des années 2000, il y a plusieurs patrons du renseignement qui m'ont raconté avoir été nommés par Jacques Chirac. Ils étaient proches de Jacques Chirac et avoir alerté Jacques Chirac en leur disant je n'y connais grand chose au renseignement. Oui. Plusieurs m'ont raconté ça et que Jacques Chirac leur a répondu, mais c'est pour ça que je vous nomme, parce qu'il préférait ils se méfiaient en fait des services d'espionnage et
autant pour quelqu'un d'incompétent.
Et il préférait surtout nommer quelqu'un de proche en qui il avait totalement confiance.
Oui, c'est ça. C'est quand même la proximité, c'est l'un des critères. Il faut être proche du pouvoir pour être nommé à ces postes.
Alors, ça dépend des postes, mais il y a des postes très sensibles où il y a un besoin de confiance, même sur des postes de haut fonctionnaire, de directeur d'administration centrale. Quand il est arrivé au pouvoir en 2017, Emmanuel Macron voulait recevoir les directeurs d'administration centrale que devait ensuite nommer leur ministre, c'est lui qui les nomme, en fait, dans la réalité, pour être certain de leur confiance.
Oui, mais ça c'est alors, pas forcément choquant. Aux États-Unis, c'est ce qui se passe. Quand un nouveau président arrive, toute l'administration est débarquée, on nomme de nouveaux chefs pour avoir des gens qui sont impliqués dans la politique qu'on va mener. Ça peut être efficace, en fait.
Ah, c'est pas forcément, encore une fois, le nommer beaucoup de gens et choisir soi-même de nommer, c'est pas forcément nommer des gens qui ne sont pas compétents. Après, la question, c'est le nombre de nominations et est-ce que c'est au président de la République de nommer le patron du musée Picasso, le patron de l'Opéra Comique, ou est-ce que c'est plus au ministère
voire
concerné.
Voire même la présidente de la Cour des comptes. Parce que on pourrait aussi imaginer que c'est un vote de l'Assemblée nationale, du Sénat, de je sais pas qui, mais
un contrôle.
Enfin, qui est un espèce de contrôle et puis qui est une espèce de légitimité à être élu. Est-ce que vous pensez pas que dans cette dérive là que vous situez quand même pendant les années Mitterrand, puisque c'est là que ça s'accélère.
Alors, tout au long de la cinquième, ça s'est augmenté.
Ça s'accélère pendant les années Mitterrand. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a aussi un lien, et moi je le vois, avec l'abstention, où les gens se trouvent dépossédés de leur vote par ces nominations, quoi. Et se disent, ça sert à quoi que je vote pour ceux qui, finalement, vont régir ma vie au quotidien? Parce que les préfectures, parce que les sous-préfectures, parce que tout l'appareil d'État aujourd'hui qui est nommé, il échappe complètement au contrôle des citoyens, quoi.
Ça peut participer à la défiance, sachant qu'en plus le poste de la Cour des comptes est assez particulier, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de postes qui nécessitent des auditions devant l'Assemblée et officiellement des commissions peuvent s'opposer s'ils votent aux 3/5 à des nominations du président. En réalité, c'est arrivé qu'une seule fois.
Vous avez rappelé
de la Cour des comptes.
Rappelé par exemple pour le Conseil d'État que le Conseil d'État avait annulé le décret de nomination de Philippe Besson.
Oui.
En 2019, puisque proche du couple Macron, il devait être nommé consul à Los Angeles.
Oui.
Sympa, c'est chouette, Los Angeles.
Mais c'est très rare.
Oui, c'est très rare.
Et ça a été annulé.
Non, mais oui, ce décret a été annulé parce que ça avait quand même fait un peu parler.
Oui,
jaser.
Tu pousses le bouchon un peu.
Voilà, mais comment vous expliquez justement cette faible réactivité des grands corps, des grandes institutions, à essayer quand même de mettre un peu d'ordre là-dedans?
Alors, il y a quand même à chaque fois des controverses. Hein. Mais c'est pas la première, Amélie de Montchalin. Il y a eu, je raconte dans le livre, le précédent Pierre Jox, qui a été nommé en 93 à la tête de la Cour des comptes quelques semaines, quelques jours avant les législatives de 93. Il était ministre de la Défense à l'époque. C'était vraiment un recasage qui avait, à l'époque, fait énormément polémique. Alain Juppé parlait de annoncer un livre noir sur l'État PS. Dominique Baudis, qui était centriste, parlait d'une colonisation de l'État.
C'est pas ce qui est en train de se passer. On est à la fin du règne d'Emmanuel Macron. Les nominations se bousculent et on vient d'apprendre que le gouverneur de la Banque de France quittait son poste, il part un an plus tôt. Et vous savez pourquoi ? Pour ne pas prendre le risque que son successeur soit potentiellement nommé par un président RN hostile à l'euro. Pardon, c'est... donc ça veut dire qu'on est vraiment dans...
Il l'a dit
dans...
ça ?
Oui, ça serait une des raisons de son départ, parce qu'il a surpris tout le monde, il est parti plus tôt.
C'est quand même un déni de démocratie.
Alors, non, donc ça veut dire quand même qu'on est vraiment dans des nominations très politiques, et qu'on est en train... Et peut-être que Mme Montchalin, c'est le même projet, c'est-à-dire qu'on imagine que Bardella va arriver au pouvoir, et qu'il faut nommer des gens qui seront aussi le nouveau pouvoir pour faire un espèce de cordon sanitaire.
Alors, l'entourage de François Vidal-Gallo affirme que ce serait pas finalement totalement pour que ce soit pour empêcher le successeur ou la successeuse d'Emmanuel Macron de nommer le successeur. Le fait est que c'est un poste. Le fait est que c'est un poste également. Ça fait partie de ces postes où qui sont inamovibles en fait. Où c'est très très difficile ensuite de déloger la personne.
Justement, si c'est inamovible, ce qui a été nommé peut être dénommé. Donc on peut les suspendre comme on veut, puisque c'est ce pouvoir discrétionnaire.
C'est plus difficile pour certains postes. Il y a certains postes où c'est vraiment faut avoir piqué dans la caisse pour avoir pour non, la procédure est très longue pour pouvoir dénommer quelqu'un. Par exemple, c'est le cas aussi à la Caisse des dépôts. À la Caisse des dépôts, il y a eu un précédent.
Qui est la banque de l'État.
Exactement, haut bras armé financier de l'État. La Caisse des dépôts, il y a eu une polémique en 2012 pendant la campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy souhaitait y nommer le secrétaire général de l'Élysée, donc son plus proche collaborateur, qui était Xavier Muscat. Il y avait eu une énorme polémique. Et à l'époque, Nicolas Sarkozy avait dû renoncer à cette nomination qui devait être faite quelques semaines seulement avant la présidentielle, en décidant également de geler tous les postes important, toutes les nominations sur les postes importants avant la présidentielle pour ne pas lier la personne qui allait être élue à l'élection présidentielle avec toutes ces nominations.
Abel.
Alors moi, je vais vous poser une question très particulière. J'ai beaucoup apprécié l'ouvrage et j'ai aimé surtout les sujets tabous. Donc, vous parlez du sujet des diplomates dénommés parce qu'homosexuels. Vous parlez de la France-Afrique avec certains diplomates qui sont restés en poste au-delà de la durée estimée, le business des cabinets privés et la question de l'influence de la franc-maçonnerie. Et j'aimerais vous interroger dessus parce que c'est une question qui fait beaucoup jaser dans la population.
Depuis longtemps.
Exactement. Et la franc-maçonnerie, dont vous dites que c'est une tradition depuis Louis XIV, même si aujourd'hui il semble que l'influence soit moindre, vous interrogez deux sarkozystes qui vous jure ne jamais avoir été dedans. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que, et je parle des lobbies, pas de monsieur et madame tout le monde qui ont le droit de croire à ceux qui veulent. On a un lobby qui a été quand même en première ligne en ce qui concerne la loi pour la laïcité, qui fonctionne, qu'on le veuille ou non, comme une organisation religieuse, c'est-à-dire une vision convictionnelle, un système de membres, des réunions, un système qui fait que si vous n'êtes pas membre, vous n'avez pas le droit d'accéder à certaines réunions. Oui, j'ai bientôt fini. Et surtout que lorsque vous n'êtes pas franc-maçon, vous êtes appelé profane, c'est-à-dire une personne non affiliée à une religion. N'y a-t-il pas confusion des genres quand on voit que une structure qui n'est pas une religion officielle, mais qui fonctionne comme une religion, ait autant d'influence dans l'État profond?
Alors, ce qui est vrai, c'est que le fait que ce soit le président de la République qui nomme n'empêche pas les luttes d'influence. Il y a des campagnes pour un certain nombre de nominations, pour ces nominations, et il y a des groupes d'influence qui essayent d'influer. C'est le cas.
Les francs-maçons, alors?
Notamment aussi sur les francs-maçons, notamment dans la police. J'ai encore des. Je savais pas que ça c'était encore présent, mais j'ai vu beaucoup de personnalités de la police, de direction de la police, ils m'ont dit que ça il y a eu une influence, ce que ça peut jouer, même si la plupart des personnes que j'ai vues n'ont pas voulu apparaître en on, comme on dit. Et évidemment, ne m'ont pas dit qu'ils étaient francs-maçons, ils m'ont dit l'inverse. Il y a aussi des structures où par le passé, notamment, il y a eu de l'influence de la franc-maçonnerie, notamment, on parlait de la Caisse des dépôts, dans certaines entreprises publiques comme EDF. Je raconte aussi le rôle de ces groupes d'influence.
Quel est le plus beau fromage de la République où on demande à être nommé ou casé, où le pouvoir dit on va le mettre là-bas?
Alors après, il y a aussi des institutions qui permettent du recasage du Conseil d'État, de la Cour des comptes. Il y a ce qu'on appelle le tour extérieur entre guillemets que Emmanuel Macron a sensiblement réduit, qui existait beaucoup plus avant, mais qui existe quand même toujours. À savoir que c'est à la Cour des comptes, au Conseil d'État, le président de la République, au tour extérieur, peut nommer qui veut.
Il y a le CESE. Le Conseil économique et social, ou alors là, les Français ont souvent découvert des nominations
Bah, il y avait eu le précédent Georgette Lemaire, oui. Du nom de la chanteuse qui avait été nommée par François Mitterrand. Il y a des sur le Conseil d'État, sur la Cour des comptes, il y a eu aussi
d'autres précédents. C'est rémunéré et c'est bien rémunéré en général en plus.
C'est rémunéré.
Parfois mieux payé qu'un ministre.
Et puis, c'est des postes aussi parfois sur les nominations. C'est des postes. Les gens qui sont nommés durent souvent plus longtemps aujourd'hui que les ministres.
Dans votre livre, vous utilisez plusieurs expressions pour décrire justement l'influence de l'administration et des réseaux de pouvoir. Vous parlez d'État PS, État RPR, vous parlez de la France des grands corps, l'entre-soi. Mais pourquoi vous n'utilisez jamais, je l'ai vu dans votre livre, je l'ai lu, vous n'utilisez jamais le terme d'État profond. Vous considérez que c'est un terme deep state, c'est un terme qui est trop connoté complotiste, etc. Parce que c'est d'un point de vue académique, c'est étudié, hein, l'État profond, c'est pas juste sur les sphères complotistes.
Alors, sachant que quand je parle de l'État PS, État RPR, oui. je reprends en fait des expressions.
Oui, bien sûr. Vous les mettez entre guillemets.
Après, le fait est que le président de la République, par les nominations, nomme un peu c'est les personnes qui, entre guillemets, dirigent en quelque sorte l'État, mais ne sont pas élus. Et vont devoir appliquer la feuille de route du président de la République. C'est aussi pour ça que...
Y compris quand il est plus là. C'est ça la question de l'État profond. C'est-à-dire c'est une permanence d'un pouvoir qui n'est plus élu. La Mitterrandie s'est maintenue dans toutes les grandes sphères de pouvoir. La Chiraki aussi. Alors même que Mitterrand n'était plus président et que Chirac n'était plus président. Le problème, il est là aujourd'hui. C'est que ces gens-là se maintiennent alors que le peuple a décidé à fuera.
Ils peuvent se maintenir. Après, sur beaucoup de postes, on peut quand même dénommer des gens, même s'il y a des postes inamovibles, comme on parlait tout à l'heure.
C'est quelque chose qui, dans les collectivités locales, coûte une énergie terrible à des nouveaux élus, quoi, ça.
De
renommer ceux qui leur vont bien quand ils tapent les prédécesseurs, quoi.
Merci Michael Moreau. Merci Sa Majesté nomme enquête sur un pouvoir présidentiel exorbitant. C'est aux éditions Robert Laffont. C'est comme ça qu'on apprend qu'on nomme entre 5000 et 10 000 personnes, du simple au double, des milliers de personnes. Faut-il retirer au président leur pouvoir de nomination? C'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux et on va voir ce que vous en pensez. Oui, enfin, à plus de 93%. Le pouvoir décisionnaire, vous en avez discrétionnaire plutôt, vous en avez assez. Dans un instant, on va s'intéresser, ce sera notre dernière discussion avec vous au 32-16. Vous avez vu au procès des CRS qui avaient matraqué des gilets jaunes dans le Burger King. Est-ce que c'est une bavure policière? Les CRS se défendent, ils en étaient à cran et on nous a donné des ordres. Allez, venez en parler avec nous au 32-16.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC et RMC Story, la radio et la télé pour les Grandes Gueules, avec aujourd'hui Barbara Lefebvre, avec Abel Boyi et avec Didier Giraud. Il nous reste 20 minutes de discussion ensemble avant de passer le relais à Estelle Denis pour Estelle Midi, le midi à 15h. On va s'intéresser à un procès qui s'est ouvert, le procès des 9 CRS qui avaient frappé des manifestants dans le Burger King. Ça nous ramène 8 ans en arrière, on était à l'époque des Gilets jaunes. Ce sont les images des vidéos, des caméras vidéo, notamment du Burger King. On était en décembre 2018, c'est ce qu'on appelle l'acte 3 des Gilets jaunes. La capitale, une partie de la France, et surtout Paris, est secouée par les manifestations des Gilets jaunes et par des violences. Les policiers, les gendarmes sont régulièrement pris à partie. Et puis là, on leur donne l'ordre d'évacuer un Burger King. Ça se passe dans la violence. Il y a des plaintes qui sont déposées. 8 ans après, c'est enfin le procès de ces CRS. Est-ce que c'est une bavure policière? C'est ce que devra déterminer la justice.
Les images qui sont diffusées en ce moment sur RMC Story, les images de vidéosurveillance du Burger King sont assez implacables, puisqu'on voit quand même des manifestants gilets jaunes qui sont frappés au sol par des CRS qui ne résistent pas et ils continuent à se faire cogner dessus. Donc, à mon avis, c'est quand même mal barré pour les CRS qui sont jugés. Néanmoins, lorsqu'ils disent que ce jour-là est une journée particulièrement difficile, où ils ont été mobilisés très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Les images, c'est vers 20h, hein, ça se passe, cette histoire. Donc, ils étaient épuisés, qu'ils avaient aussi des ordres. Troisième argument, ils sont sur le banc des accusés, mais pas la hiérarchie, c'est-à-dire que les donneurs d'ordre ne sont pas là, notamment le préfet de l'époque qui était Monsieur Delpuech, remplacé ensuite par Monsieur Lallemand. Donc ce sont des arguments recevables, mais les images sont quand même assez difficilement, on peut difficilement contester la réalité des choses lorsqu'on voit ces images.
Alors, est-ce qu'on est face à une bavure? Il y a déjà un élément hier au procès, c'est-à-dire que les 9 CRS sont arrivés en tenue avec la fourragère, la casquette, le képi. La présidente du tribunal, enfin le président du tribunal leur a dit vous sortez, vous m'enlevez tout ce qui est apparat et vous revenez juste avec la chemise, parce qu'il considérait que c'était presque un abus de pouvoir et d'autorité de la part des CRS, Abel.
Oui, ça pouvait être pris en termes de communication comme une provocation, que genre la justice ne va pas nous marcher dessus, mais après les CRS ont reconnu leur tort aussi, faut être honnête, on a affaire à une bavure policière, c'est-à-dire que la question laisse une réponse évidente. Mais maintenant, comme Olivier tu l'as signifié, c'est la question de la hiérarchie. Parce qu'il y a quand même un des éléments dans la reconnaissance qu'ils ont faite. Ils ont dit que c'était l'erreur de leur carrière ou l'erreur d'une vie. J'ai plus la terminologie exacte. Et c'est les ordres qu'on leur a donnés, en fait, quoi. Et ce qui est dommage.
Si on leur a donné précisément l'ordre.
Non, mais on leur a pas dit taper comme ça, mais on leur a
évacué.
Voilà. Mais c'est-à-dire qu'eux-mêmes ont laissé entendre qu'on leur a donné des ordres, qu'on leur a fait travailler, qu'on les a fait travailler dans des conditions très difficiles, qu'ils n'avaient rien mangé depuis 7 heures du matin et que toute la journée, ils s'en sont pris plein la gueule. Et on leur a dit de rentrer dans le tas. Je le redis avec ma terminologie. Donc moi, j'aurais aimé aussi que le préfet de l'époque puisse comparaître aussi pour qu'il puisse s'expliquer sur les ordres qui ont été donnés. Et c'est la question que je posais un petit peu.
Leur commandant.
Oui, exact. C'est la question que je posais lorsqu'on a reçu le patron du syndicat Alliance. La police n'est-elle pas des fois l'idiote utile de sa hiérarchie? Parce que eux prennent, il y a une violence, certains diront violence policière, d'autres diront bavure policière, elle est là, mais les donneurs d'ordre, eux, ils s'en sortent toujours bien bizarrement.
Didier?
Bah, pour moi, ce qui serait une bavure, c'est qu'il n'y ait pas de procès. Bah, ça serait une bavure s'il n'y avait pas de procès. Ces mecs-là, ils sont à la barre devant la justice. Donc, tu ne peux pas appeler ça une bavure. Ils sont au même niveau que tous les citoyens, judiciarisés.
Non, la bavure, ce sont les coups.
Ils ont été trop loin dans ce qu'on leur avait confié comme mission, mais ils ont des circonstances atténuantes. C'est les mecs, ils ont attaqué à 5h du matin, ils n'ont pas bouffé, ils s'en sont pris la pleine gueule toute la journée. Le soir, on leur dit dégagez-moi le store là.
C'est pas une raison pour mettre la gueule à des types qui certes occupent illégalement
et qui n'opposaient aucune résistance.
Un magasin, mais certains, on les voit, ils lèvent les bras, ils en prennent pas la poire.
J'ai aussi écouté des témoignages de gens qui disaient qu'ils s'étaient réfugiés là parce qu'ils s'étaient fait gazer. Enfin voilà, le truc qu'il a démêlé par la justice, mais moi je suis comme tout le monde, je comprends pas pourquoi c'est les 9. Qui sont à la base. Alors certes, c'est eux qui ont donné les coups, mais je pense pas qu'un CRS décider d'aller donner des coups comme ça et nettoyer une boutique de cette façon-là si on lui a pas demandé de le faire. Ça, je le crois pas. Il y a forcément une hiérarchie qui demande de faire ça. Et derrière ça, les conditions dans lesquelles ils ont été engagés toute la journée peut faire que peut-être il manquait de discernement. Ça, je veux bien l'entendre. Mais tu vois, il y a là-dedans aussi tout le procès des violences policières pendant les Gilets jaunes, qui sont d'abord et avant tout le procès de la hiérarchie, quoi.
Barbara.
Oui, mais le troisième samedi, des Gilets jaunes, j'étais allée justement à une manifestation des Gilets jaunes à Paris. C'était au milieu de l'avenue Foch. Et j'avais été étonnée parce que on était à peine arrivés, on était même pas encore regroupés, c'était que des petits groupes comme ça par-ci par-là. Et tout de suite, il y a eu on nous a jeté des grenades lacrymogènes. Tout de suite, il y a eu lacrymo partout sur l'avenue Foch, on n'y voyait plus rien.
La manif était interdite ou autorisée?
Non, ben c'était les manifs de Gilets jaunes du samedi.
Je sais bien.
Mais c'était les premières. Je ne sais plus si elles étaient autorisées ou. Je crois qu'elles étaient autorisées, mais on n'avait plus le droit. Elles étaient autorisées, mais tu n'avais plus le droit déjà d'aller.
Sur les Champs-Élysées.
Vers les Champs-Élysées, etc.
On n'était pas sur les Champs-Élysées. C'est le jour de l'Arc de Triomphe, quand même, c'est ça?
Non, c'était pas en décembre. Moi, c'était vraiment en novembre. C'était tout début.
Ah, d'accord. Mais là, le jour dont on parle.
Ah oui. Non, mais c'est pour ça que j'allais y venir.
Le jour de l'Arc de Triomphe, quand même.
J'allais y venir. Dès le début, ils ont reçu des ordres de faire disperser les groupes de gilets jaunes de façon dès les premières minutes. Je vous dis, moi, on venait à peine d'arriver qu'on s'est pris les gaz lacrymo. Donc moi, au bout d'une heure, je suis partie, je suis plus jamais revenue. Moi, j'ai été regarder ça autrement dans d'autres espaces. Mais c'est évident que les ordres qui ont été donnés à l'époque étaient d'une grande brutalité vis-à-vis de manifestants qui, au départ, je dis bien au départ, les gilets jaunes étaient vraiment des gens qui manifestaient pacifiquement. Après, il y a eu toute la récup politique, et j'en passais les meilleurs, avec des saccages, avec un, voilà, après, on sait très bien qui a mis la main sur les gilets jaunes après. Puis, à Paris surtout, parce qu'en province, c'est resté relativement calme.
Non. Et donc, c'était plus les mêmes.
D'accord, mais c'était plus les mêmes, c'est ce que je dis. Donc, il n'empêche que, moi, je l'avais ressenti, c'était vraiment fort avec les faibles, faible avec les forts. C'est-à-dire que cette violence d'envoyer des gaz lacrymo, quand on voit comment, dans d'autres cas d'émeutes ou quoi, la police, ça m'attrape pas, ça sort pas les gaz lacrymo, ça sort rien du tout. Là, on était complètement sans armes, sans rien, et on s'en était pris plein la tronche. Donc, je pense que c'est les ordres, et c'est pour ça que je trouve ça scandaleux. Encore une fois,
devrait
qu'on
être
expose
dans
le petit fonctionnaire qui obéit à sa hiérarchie, et c'est jamais, mais c'est pareil partout, c'est pareil à l'éducation nationale, jamais, il donne des ordres, et ensuite, c'est les petits qui trinquent. Et c'est pour ça que moi, vis-à-vis de ces CRS, j'ai énormément d'empathie, parce que je sais que le métier qu'ils font est difficile.
En plus, ils ont reconnu leur tort,
difficile, et ils sont lâchés systématiquement par une hiérarchie lâche, et qui n'a même pas le courage d'assumer devant les tribunaux les ordres qu'ils ont donnés.
Donc oui, mais c'est à la justice aussi de faire comparaître.
Eh ben,
désolé.
Ouais. Qu'elle le fasse.
Pourquoi ne fait-elle pas comparaître
le ministre de l'Intérieur de l'époque, le préfet de police?
Ouais, c'est ça.
Le préfet de police.
Ça serait la première des choses.
Le préfet de police, monsieur Castaner.
Et toute la chaîne de commandement qui les a conduits ici.
Exactement.
D'ailleurs, souvenez-vous qu'à l'époque, il y avait le débat sur quelle était la doctrine à avoir face aux gilets jaunes. Parce que, comme tu disais, il y avait le rassemblement pacifique, mais c'était quand même des rassemblements qui se situaient sur la voie public et bon nombre étaient interdits. Et là, ce qu'on voulait, c'était pas l'agglomération justement de ces rassemblements. Et puis après, il y a eu ce qui s'est passé effectivement.
Mais le 1er décembre, ils se sont plantés en plus. Ça a été particulièrement violent le 1er décembre. Ils se sont dit, bon, on va faire une zone autour de l'Arc de Triomphe où les manifestants seront là et ça sera plus calme, etc. Il y a eu une erreur
plus,
manifeste dans le maintien de l'ordre ce jour-là. Et Paris, on est à quelques. Certes. On n'est pas très loin de l'Elysée. Hein.
Et il y avait aussi.
Paris était quand même. Après ce coin-là était à feu et à sang.
Après l'Allemand, c'était pas mieux. C'était les LBD. Je rappelle quand même exactement. Le nombre de gilets jaunes qui ont laissé un œil ou une main.
Hein. Il y a eu aussi un débat au sein même de la police parce que beaucoup de fonctionnaires de police se sentaient gilets jaunes en réalité et partageaient les convictions. Et ils étaient coincés entre leurs convictions et les ordres belliqueux qu'on leur donnait malheureusement.
On va en parler avec Nicolas. Nicolas, il nous appelle
et
de la
Nièvre. Et en plus, c'est encore une fois du deux poids, deux mesures.
De la Nièvre. Bonjour Nicolas.
Bonjour les GG.
Bienvenue chauffeur routier. Vous étiez gilet jaune à l'époque, hein, c'est ça?
J'étais gilet jaune et ce jour-là, j'étais sur les Champs-Élysées. Alors, j'étais pas dans le Burger King.
D'accord.
Mais ce qu'a dit Barbara, c'est vrai. Ça a commencé à partir de 7h30 du matin. Il y a eu des menaces, il y a eu du gaz lacrymo qui a été balancé quasiment dès le début de la manifestation. Alors c'était une manifestation interdite sur les champs, normalement on n'avait pas le droit d'y aller. Franchement, ce jour-là, c'est une journée qui, alors j'avais jamais manifesté, j'étais un gilet jaune de la première heure pour le ras-le-bol. Et ce jour-là, c'était vraiment la folie. J'ai vu des scènes quasiment de guérilla urbaine. J'ai vu une grue de chantier sur les Champs-Élysées se faire vandaliser par des gilets jaunes. J'ai vu je sais pas ce que c'était, si c'était des bouteilles d'oxygène ou de gaz qui ont carrément pris feu et qui ont explosé un petit peu en dessous de la boîte de nuit du Queen. Nous, on s'est fait nasser, on s'est affronté avec les CRS et les forces de l'ordre, on a pris des coups de matraque, après c'est de la désobéissance civile, ça fait partie du jeu, on a tout fait à visage découvert, parce que justement, on voulait que s'il y avait des vidéos et des procès, on voulait justement pouvoir dire, regardez, nous on assume ce qu'on a fait, et on n'a fait que de la désobéissance civile, mais on n'a pas fait de dégradation, on n'a pas cassé de vitrine, on n'a pas pillé des magasins, parce qu'il faut rappeler que ce jour-là, il y a eu aussi des magasins qui se sont
pillés. Ah oui, il y a des saccages, bien sûr. Ça a été violent,
même ce jour-là où le Fouquet's a pris feu en terrasse, si je dis pas de bêtises, à vérifier, ouais.
Ce qui s'est passé au Burger King, qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas, alors?
Moi, je pense que je vais vous étonner, mais je pense que les CRS n'ont rien à voir dans l'histoire. Il y a quelqu'un qui était dans le centre du commandement qui s'appelle Christophe Castaner. Je vais lui lâcher une balle perdue.
C'est le ministre de l'Intérieur, ouais.
aujourd'hui, il fait de la promotion pour les poupées sexuelles sur Chine.
Non, vous ne pouvez pas dire ça, Nicolas.
Et puis,
il n'y est plus en plus. Il était conseiller chez Chine et il n'y est plus.
Non.
Voilà.
Enfin, bref.
Ah oui, mais non, il faut dire les choses exactes.
Bon, enfin, il pointe pas l'usine, Castaner. Bon, voilà.
Il était même en boîte de nuit un samedi pendant que ça castagnait.
Oui, ils ont exécuté les ordres.
Ils ont exécuté les ordres et je peux comprendre aussi, je peux l'entendre, que la journée pour eux a été particulièrement tendue
et
éprouvante. Et bah oui, je pense que ils ont alors bavure, non, je dirais pas bavure, parce que je pense qu'ils ont surtout respecté les ordres.
Alors Nicolas, on va continuer d'en discuter. Vous qui étiez gilet jaune à l'époque avec Michel, dans un instant, il est d'Eure-et-Loire et il était aux manifestations aussi ce jour-là, et on verra ce qu'il pense de l'attitude des CRS. Est-ce que c'était le procès des CRS qui ont matraqué les gilets jaunes dans le Burger King, bavure ou respect des ordres vu la tension de ce jour-là? Vous restez avec nous, il est midi moins 20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Gégé, les grandes gueules, avant de donner la parole à Michel, je vous rappelle les 30 000 euros à gagner peut-être vendredi 13. En fait, on va faire tourner une roue vendredi prochain. Vendredi 13, ce sera votre jour de chance. Quoi qu'il arrive, il y aura de l'argent à gagner. De l'argent exonéré d'impôts, puisque c'est du gain de jeu. Et gain de jeu, ça pourra monter jusqu'à 30 000 euros. Donc, comme on sera vendredi 13, eh bien, vous envoyez 13 en lettres ou en chiffres par SMS au 732-16. 13 en lettres ou en chiffres par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner jusqu'à 30 000 euros en cash vendredi prochain, vendredi 13. On revient à notre discussion sur ces CRS qui ont frappé des manifestants dans un Burger King. On était près de l'Arc de Triomphe. C'était l'acte 3 des Gilets jaunes en décembre 2018. C'est Michel qui va en parler avec nous. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bienvenue Michel. Qu'est-ce que vous en dites, vous, des CRS? Alors, est-ce qu'on est dans la bavure policière ou pas? Dites-moi.
Oui, pour le Burger King, oui, on est dans la bavure policière. Parce qu'il faut savoir que tout policier, tout CRS ou militaire a un droit de retrait sur les ordres qu'on lui donne. S'il voit que ça va trop loin, il a le droit de retrait.
Ça c'est la pratique.
C'est la théorie plutôt,
c'est pas la pratique.
Allez-y, Michel.
Il peut dire, je veux bien faire respecter l'ordre, mais je ne taperai pas. Parce que quand vous voyez qui ont pénétré dedans, vous avez des gilets jaunes qui lèvent les mains, qui sont, on va pas dire passifs, mais ils lèvent les mains, ça les empêchait pas de dire, bon écoutez, monsieur, sortez. Là, vous les voyez, ils arrivent, ils tabassent tout de suite. Et pour y avoir été, moi, pas très loin sur les Champs-Élysées, là, à côté du McDonald's, quand vous entendez des CRS qui vous dit, on attend qu'une chose, c'est l'ordre de vous payer, pardonnez-moi l'expression.
Vous pétez la gueule, c'est ça ?
Voilà. Ça a été l'expression qu'ils nous ont dit. On attend qu'une chose, c'est l'ordre de vous péter la gueule.
Quand vous y étiez au milieu de manifestants virulents, extrémistes, radicaux, vous ?
Non. Moi, j'étais visage découvert. J'allais exprimer mon ras-le-bol. D'ailleurs, j'y étais qu'une fois parce que quand j'ai vu comment ça tournait, j'ai dit hop, je reste chez moi, c'est fini.
Exactement. Hein ?
Donc vous dites là, ces policiers, on leur avait donné un ordre, ils auraient dû dire, écoutez, on n'exécute pas l'ordre, on se retire, c'est ça ?
Ils pouvaient exécuter l'ordre, mais pas comme ils l'ont fait.
Oui. C'est-à-dire, ils auraient dû dire, messieurs, dames, veuillez évacuer le Burger King.
Michel, moi, je vous interromps. Ces CRS-là, toute la journée, ils ont été vidés des boutiques où les gens étaient en train de faire du saccage. Ils auraient pu y aller avec un sifflet et dire, s'il vous plaît, veuillez sortir, quoi. À un moment donné, peut-être que les gens qui étaient dans le Burger King s'étaient réfugiés des gaz lacrymogènes. Et ça, j'ai écouté des témoignages. Je veux bien l'entendre qu'ils n'ont pas fait preuve de discernement, mais en même temps, c'est des mecs. Toute la journée, ils ont vidé des black blocs qui pétaient des boutiques sur les champs, quoi.
Je suis d'accord. Donc, je suis d'accord. Mais ils sont entraînés pour garder un peu de sang-froid.
Oui, mais ça c'est facile à dire. De là où on est, il faut se rappeler que cette journée, c'était une journée de violence et de chaos. Hein.
Je sais bien avec tous les.
Mais Michel, vous pensez que s'ils avaient dit aux gens du Burger King, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, veuillez évacuer, ça se serait passé tranquillement ?
Il y aurait eu un peu de mouvement. Ils auraient pu les bousculer un peu plus, mais pas comme ça.
Non, mais c'est vrai qu'il est il les frappe alors qu'ils sont à terre.
Voilà.
Là, l'image,
je sais pas
on
si
voit.
C'est
oui, mais peu importe. Ils les frappent.
Attends, ils ont reconnu leur erreur. Ils l'ont reconnu.
Ouais, voilà.
Difficilement défendable.
Tant qu'ils la reconnaissent, tout. Mais il est vrai que le donneur d'ordre, lui, il n'est pas là. Hein.
Non.
Lui, il a les choses. Il va manger tranquille chez lui ce soir, alors que
qu'est-ce qui est devenu le préfet Delpech?
Alors que lui, les autres, les CRS, ils risquent peut-être d'aller dans une petite cabine. Hein.
Si tu convoques le préfet, il faut convoquer aussi le ministre de l'Intérieur, parce que le préfet lui-même dira « moi, j'ai fait qu'appliquer les ordres qui étaient donnés le matin à la place Beauvau ». Souvenez-vous, il y avait des cellules de crise place Beauvau pour déterminer la doctrine d'intervention à ce moment-là.
Normalement.
Et d'ailleurs, ensuite, on a reproché, je crois, à Delpech de ne pas être assez ferme.
On a mis le préfet allemand.
Portait bien son nom.
Ce que je disais à l'époque hein.
Ouais, mais
le CRS, ils laissent faire, entre autres ce jour-là, ils ont laissé faire parce qu'ils n'avaient pas d'ordre, quoi.
Confond pas avec le chanteur.
Michel Delpuech.
Il s'appelle Michel Delpuech.
Oui, il s'appelle Michel Delpuech. Oui.
Il a chanté, puis il est devenu préfet.
Ah, okay.
Et là, il est à la retraite.
Et là, il a fait danser les autres.
Voilà. Il va à la chasse
quand
maintenant.
Pardon, on t'a interrompu, Ahmed.
Non, mais c'est-à-dire, ce que tu dis confirme encore une chose. En France, on n'a pas la culture de la responsabilité. On utilise le petit prolétariat comme fusible et ceux qui sont derrière, qui appartiennent à l'État profond, qui sont nommés par l'État profond, ils s'en sortent toujours. Christophe Castaner, est-ce qu'on peut rappeler qu'un samedi, alors que ça pétait, il s'est fait gauler en boîte de nuit en train de rouler une pelle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut le dire? Voilà, alors qu'il devait être à son poste en train de vérifier que tout se passe bien. Donc tout ce monde-là, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont?
C'était chouette, les Gilets jaunes, ministre de l'Intérieur. Surtout pour Castaner, je peux te dire, c'était chouette. Je crois qu'il n'en avait jamais même rêvé. Je ne sais même pas si sa maîtresse de CE2
elle aurait imaginé de serrer de la meuf.
S'il vous plaît, je voudrais qu'on continue avec nos témoignages au 32-16. Je remercie Michel d'avoir été avec nous. Parce que c'est Claude qui est là. Claude, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez fait partie des personnes blessées, vous, lors des manifs des Gilets jaunes, c'est ça hein?
Tout à fait, oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui vous est arrivé?
J'ai perdu un doigt qui a été... en fin de compte, on a dû me l'enlever. Et un autre qui est paralysé complètement. Et puis, mes jambes aussi.
À cause de quoi?
Coup de matraque et le BD.
Mais vous n'étiez pas dans le Burger King ce jour-là?
Non. Par contre, j'ai fait partie de quand il y avait le Fouquet, tous les magasins vidés sur les champs. Oui, j'y étais, oui.
Mais c'est-à-dire, vous étiez là-bas pour manifester ou vous étiez là-bas pour casser?
Manifester, non, on ne casse pas, non. On est anticapitaliste, mais par contre, on parle du Black Bloc et franchement, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Parce que c'est beaucoup, après, des jeunes qui descendent de peu partout, qui se mêlent au milieu pour les casser, quoi. Ça n'a absolument rien à voir, quoi.
Et donc, que pensez-vous de ce qui s'est passé dans le Burger King, alors?
Oui, j'avoue que des fois, ça va un peu trop loin, mais bon. Parce que souvent, on s'en prend à des enseignes capitalistes comme ça, et voilà, quoi.
Ah, mais qui est allé trop loin? Les manifestants, les policiers? On ne comprend pas bien.
Un peu des deux.
D'accord.
Ouais. C'est-à-dire que
y en a certains qui sont là vraiment pour mettre des coups de matraque et puis taper sur la tronche.
Et puis il y en a des anticapitalistes qui sont là aussi.
Il y a des anticapitalistes qui sont là pour tout casser aussi.
Pour tout casser.
Aveuglément.
Il y en a, oui, non, mais oui, j'avoue, les banques, tout ce qui est.
D'ailleurs, des banques qui sont obligées de se protéger à chaque manif maintenant en mettant des panneaux en bois.
Les agences immobilières, tout ça.
L'agence immobilière.
Est-ce que l'agence immobilière est le symbole du capitalisme?
Certaines, oui.
C'est l'argent.
Oui.
C'est comme ça qu'il
interprète. Par contre, moi, j'étais à la tête de Gilets jaunes sur une région en France.
À Cherbourg. Cassé,
on a réussi à leur faire perdre 15 millions d'euros à l'agroalimentaire en 15 jours.
C'est bien, comme ça, derrière, ils ont licencié.
En bloquant les camions et les bateaux. Voilà.
Oui, mais enfin, bon, il y a les salariés dans l'agroalimentaire, il y en a beaucoup.
Pendant ce temps-là, vous allez vous plaindre que vous allez manger la viande qui vient du Brésil ou d'ailleurs maintenant. C'est bien.
Pour ça qu'on est bloqué.
Quand on a fait tomber les filières, après, il reste plus rien, quoi. Mais après, moi, je suis désolé, Claude, mais un matin, quand tu te lèves en te disant « je vais aller faire brûler le Fouquet », tu peux prendre des coups de matraque, quoi. Hein, c'est les risques du métier, quoi. Hein.
Tout à fait.
Si tu vas régler les horloges, tu prends pas de coups de matraque.
Oui, mais je suis pas sûr que les gens qui étaient dans le Burger King Et c'était
non,
pour
ils
n'étaient
pas dans cette logique-là.
C'était pas pour s'en prendre au Burger King, symbole.
Sauf que les CRS, toute la journée, avaient lutté contre ça. Et à un moment donné, oui, quand ils rentrent dans le Burger King, je suis pas sûr qu'ils savent à qui
merci
ils ont
merci à Claude d'avoir été avec nous, d'avoir témoigné de ce qui lui était arrivé aussi ce jour-là. Gilets jaunes tabassés, est-ce qu'on est face à une bavure policière, oui ou non? On va voir ce que vous en dites. Ah bah regardez, on est quasiment 50-50. Gilets jaunes tabassés, bavure policière.
La France est fracturée.
50-50. On se retrouve demain entre 9h et midi. Les grandes gueules, nous serons avec Fatima Idounoua, la prof, l'entrepreneur Emmanuel Devilliers, le consultant juridique Antoine Diers, et puis nous serons avec un candidat à l'élection présidentielle. Enfin, c'est le chemin qu'il veut se donner d'aller à l'Élysée. C'est Jérôme Gage, le député.
Officiellement, il est candidat.
Ah oui.
C'est peut-être
2027.
Mon futur président.
Peut-être.
Ou pas.
Peut-être pas.
Regardez les probabilités, elles sont quand même assez minces.
Eh bien, on verra ça demain, en tout cas avec vous. Nous, on va
débattre. Bien sûr, tenez, il y a un micro pour vous, ma chère Estelle.
Bah, oui, bah, écoutez, voilà. Nous allons débattre autour de l'ultra-violence des jeunes. Un gamin de 14 ans tueur à gage, un quadragénaire tabassé par une dizaine d'ados à Lyon. Est-ce qu'on a perdu le contrôle de notre jeunesse? On en débat avec vous dans un instant au 32-16. On parlera également du salon Wine Paris qui a ouvert ses portes.
Wine.
Oui, oh bon.
C'est-à-dire le vin en anglais, ça se dit wine.
Mais oui, Wine, je me disais, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est qui fait des vannes?
J'ai cru que c'était une sauce tahitienne.
On ne boit plus, donc
Alors juste
là, on voit toute la. Non, mais on voit quand même tout le dédain de la Bretonne qui boit du cidre et de la bière.
Pourquoi déjà c'est en anglais?
Alors le wine à Paris, sachez-le.
Un salon du vin?
Oui, parce que c'est un salon international professionnel. On va y faire un saut d'ailleurs avec Louis Gerbier. On part en reportage dans un instant.
Qui s'ouvre sur fond de crise des viticulteurs, donc avec la baisse de la consommation de vin, les droits de douane en hausse. Est-ce que l'État doit vraiment aider les vignerons. Est-ce qu'il faut vraiment aider les vignerons alors que c'est plutôt une bonne nouvelle que la consommation d'alcool baisse
un
en France.
Un secteur d'activité comme un autre.
Nous en parlerons à 13h30. À 4 jours de la Saint-Valentin, on se posera cette question. Est-ce qu'il faut faire 50-50 sur les dépenses dans le couple? Vous savez, avant, c'était toujours l'homme qui payait.
Ça dépend des salaires.
Ça finit. Alors, justement, est-ce que vous faites, par exemple, 70-30?
La personne qui gagne plus, forcément, doit apporter un peu plus d'argent que celle qui dépense moins. Enfin,
ça, c'est chez les jeunes. Ça se faisait pas chez les plus anciens.
Ah bon?
En fait, tu comptes. C'est-à-dire que tu regardes au prorata du salaire ce que tu mets dans le compte joint.
À l'euro près.
Eh bien, les jeunes comptent à l'euro près.
Ah bon, ils sont comme ça, les jeunes?
Eh bien, oui. Et nous en parlerons.
Ils n'ont pas beaucoup de sous, salauds de jeunes.
C'est pour ça que ça va durer, leur couple.
Et puis, on se demandera également s'il faut remettre plus de sport à l'école. Vous avez vu que l'obésité monte chez les enfants, ils n'arrivent même plus à courir que de 3 minutes. Donc, est-ce qu'il faut remettre plus de sport à l'école? C'est la question qu'on vous posera à midi et demi.
Le tu préfères?
Ah, le tu préfères?
Ah oui.
Tu préfères payer l'addition à table ou au comptoir? On paye de moins en moins l'addition à table.
Ça, c'est
vrai. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, on vous posera la question. 14h25, le tu préfères?
Allez, 32-16 pour réagir avec Estelle qui est avec toi.
Le TPE.
Eh bien, il y a Charles Magnin, Fred Hermel, Jean-Philippe Doux et Élise Goldfarb.
Allez, bonne émission avec Estelle. Bonne journée et à demain 9h.